8h sur France Culture, le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'Assemblée approuve en première lecture une loi en faveur de prix planchers pour les agriculteurs, pour leur garantir un revenu digne. Par ailleurs, l'État craint de nouvelles vagues de suicides dans le monde agricole, vous l'entendrez.
Nouvelle journée spéciale européenne sur France Culture à 2 mois des élections. On s'intéresse aujourd'hui aux pays baltes, inquiets pour leur sécurité depuis l'invasion russe en Ukraine. Nous rejoindrons notre envoyé spécial à Vilnius.
Avant d'aller à Moscou, où la vie a repris 2 semaines après l'attentat contre une salle de concert.
Des livres contaminés à l'arsenic en Allemagne, l'histoire n'est pas sans rappeler le nom de la rose. Explication à la fin du journal.
Des prix planchers pour les agriculteurs. La proposition de loi des écologistes a été approuvée hier soir à l'Assemblée en première lecture, tout comme celle visant à restreindre la fabrication et la vente de produits contenant des PFAS, des polluants éternels, mais celle-ci épargne les ustensiles de cuisine. Concernant les agriculteurs, le texte prévoit un prix minimal d'achat fixé par une conférence publique dans les filières qui le souhaitent ou sur décision du gouvernement en cas de désaccord, ce qui devrait permettre de les rémunérer à hauteur de 2 fois le SMIC. Un texte approuvé en dépit de l'opposition de la majorité et du gouvernement, après un bras de fer avec l'exécutif Sophie Delpont.
Un vote vers 23h15 dans une ambiance électrique.
Pour 89 contre 66, l'Assemblée nationale a adopté.
La députée écologiste Marie Pochon, qui portait ce texte, prend la parole.
Une pensée à tous les agriculteurs qui ne vivent pas aujourd'hui de leur travail, et c'est quand même pour ça qu'on fait ça. C'est une victoire concrète sur laquelle il nous faudra construire la suite. C'est une victoire qui est la leur. Elle pose l'intention de la majorité de l'Assemblée nationale avant la loi d'orientation agricole.
Elle attaque ensuite directement la majorité et le gouvernement opposés à cette proposition de loi en faisant allusion aux propos d'Emmanuel Macron qui avait pourtant fixé un objectif de prix plancher lors de sa visite chahutée au Salon de l'agriculture.
Vous trahissez la promesse présidentielle, vous trahissez tout ce que vous dites en matière de protection des agriculteurs quand vous ne voulez pas non plus toucher à l'encadrement des marges de l'agroalimentaire.
Réponse d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture.
Que contrairement à ce qui vient d'être dit, l'engagement du gouvernement il est total sur la défense du revenu des agriculteurs. Vous avez fait votre coup politique, c'est remarquable. Vous le savez, votre dispositif est inopérant. Je le regrette, il ne parle pas des exportations. Si on veut tuer notre agriculture, avançons avec des prix administrés. Ce ne sera pas notre action.
Avec ce texte, les écologistes envoient un message en direction des agriculteurs, tout en mettant en difficulté le gouvernement à 2 mois des élections européennes.
Une proposition approuvée en première lecture, donc, alors que le gouvernement vient de présenter son projet de loi d'orientation pour l'agriculture, on l'a dit, les syndicats agricoles maintiennent la pression pour obtenir du concret. En attendant, les services de l'État, eux, redoutent de nouvelles vagues de suicides dans le secteur. C'est le sens d'une note envoyée la semaine dernière aux préfectures, Catherine Pétillon.
Après la mobilisation, le contre-coup. Il ne paraît pas excessif de redouter pour les mois à venir des vagues de suicides à la suite d'espoirs déçus ou de présentations misérabilistes de la profession. Voilà l'alerte de cette note de vigilance adressée aux agences régionales de santé et aux préfets. Car si les manifestations d'agriculteurs sont devenues rares, le retour dans les exploitations est parfois difficile. De nombreuses situations restent sans solution immédiate, malgré les mesures prévues par le gouvernement, écrit le coordinateur national interministériel du plan de prévention du mal-être en agriculture, Olivier Damézin. Le mal-être de la profession agricole n'est pas nouveau. Les situations de désespoir ou de surendettement sont nombreuses et il existe une grande variété de causes et de difficultés rencontrées, mais toutes révélatrices de grande fragilité du point de vue de la santé mentale, écrit Olivier Damézin. Les acteurs locaux et le coordinateur national lui-même constatent aussi une hausse du nombre d'appels au secours inquiétant. D'où cette incitation à une vigilance accrue. Fin 2022, les pouvoirs publics ont mis en place les Sentinelles en agriculture, un réseau de prévention réparti sur l'ensemble du territoire destiné à venir en aide aux agriculteurs en grande détresse psychique. Mais cette note de vigilance souligne les grandes disparités d'un département à l'autre et insiste sur l'importance de soutenir le déploiement de ces Sentinelles de façon soutenue.
Catherine Pétillon. Audrey Mondjei a été condamnée hier soir à 30 ans de réclusion pour avoir aidé le djihadiste Chérif Chekat à se procurer l'arme avec laquelle il a tué 5 personnes sur le marché de Noël de Strasbourg. C'était en décembre 2018. Peine assortie d'une période de sûreté des 2/3. L'assaillant avait lui été abattu par les forces de l'ordre après 2 jours de traque. Pour Emmanuel Macron, la France aurait pu arrêter le génocide de 1994 des Tutsis au Rwanda, mais n'en a pas eu la volonté. Après avoir reconnu en 2021 les responsabilités de Paris dans ce drame, le président fait un pas supplémentaire. À l'occasion du 30e anniversaire, il sera représenté dimanche aux commémorations au Rwanda par son ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné.
8h05 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Nous continuons notre journée spéciale européenne à 2 mois des élections. Focus aujourd'hui sur les pays baltes.
La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, 3 pays très inquiets pour leur sécurité depuis le début de la guerre en Ukraine, envahis il y a 2 ans par leurs voisins russes. Bonjour Nicolas Ballu.
Bonjour Margot, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Vilnius, capitale de la Lituanie, et vous vous êtes rendu pour France Culture dans le corridor de Suvalki.
Oui, le corridor de Suvalki est cette bande frontalière entre la Lituanie et la Pologne d'environ 70 km. Elle est bordée d'un côté par la Biélorussie et de l'autre par l'exclave de Kaliningrad qui borde la Baltique et qui est devenue russe à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui s'est fortement militarisée depuis 15 ans. C'est ce qui fait dire que le corridor est là le point faible de l'OTAN. En cas d'attaque russe, la prise de ce corridor couperait le lien terrestre entre les États baltes et le reste des pays de l'OTAN. Or, beaucoup de Baltes sont persuadés qu'après l'Ukraine, ils sont les prochains sur la liste de Vladimir Poutine.
Et on écoute tout de suite votre reportage sur place.
Bucolique n'est pas un terme approprié pour une zone d'intérêt militaire. Et pourtant, à Sangruda, ses quelques maisons de bois, sa centaine d'âmes, son étang, sa forêt. On est dans la grande plaine européenne, la nature à quelques kilomètres de la frontière. L'agitation ou l'angoisse semblent des mots inconnus.
Chez nous, c'est calme. Du moins ici, dans les villages, comme chez nous, avec les anciens, les habitants.
Pourtant, le corridor de Suvalki, depuis l'entrée des États baltes dans l'OTAN en 2004, c'est presque un classique militaire. Selon Marius Antonovits, politologue à l'Institut de sciences politiques et de relations internationales de l'Université de Vilnius.
Tous les plans de défense de l'OTAN, des pays baltes, de la Lituanie envisagent la défense du corridor de Suvalki. Nous pouvons le comparer ici à Berlin-Ouest ou à la Corée du Sud. Cela signifie que ces scénarios ne se sont jamais produits, mais qu'ils ont constamment été pratiqués.
La population s'est habituée à intégrer le risque. À Kalvaria, comme dans d'autres villes du pays, un conseiller aux situations extrêmes recense désormais tous les sous-sols, les souterrains qui pourraient être utilisés comme abris. Pas si difficile à retrouver dans la région, selon le directeur général des services, Liuturas Sinkevicius. Durant la guerre froide, le corridor était une préoccupation pour l'occupant soviétique face à l'OTAN.
On entendait tous parler de la menace d'une guerre nucléaire. Donc, dans chaque immeuble, il y avait ses abris, disons avec des toilettes, de l'eau, un système de ventilation, et les institutions avaient également ses refuges afin de survivre à une guerre nucléaire.
À l'heure actuelle, bon nombre de soldats de Kaliningrad sont partis sur le front ukrainien, et surtout la Suède et la Finlande rentrent dans l'OTAN, ce qui change beaucoup de choses, selon Marius Antonovits.
Fondamentalement, cela change aussi le fait que Kaliningrad devienne plus un problème pour la Russie que pour nous. Et avec les capacités aériennes et maritimes actuelles de la Suède, il devient possible de faire couler la flotte militaire russe qui se trouve à Kaliningrad, de bombarder leurs bases aériennes et militaires et en même temps de bloquer toute aide potentielle par voie maritime par la mer Baltique.
En Lituanie, on est européen et on compte surtout sur l'OTAN.
Un reportage de Nicolas Ballu. La Russie, qui 2 semaines après l'attentat dans une salle de concert près de Moscou, refuse toujours d'envisager la piste du terrorisme islamiste. Et cela, malgré les revendications de Daesh, Moscou pointe du doigt l'Ukraine et des pays occidentaux. Sur place, la vie a déjà repris, comme si de rien n'était ou presque. Et le pouvoir fait le service minimum en matière de commémoration et d'hommage. À Moscou, Sylvain Tronchet.
2 semaines après la tuerie du Crocus, il ne reste que des monceaux de fleurs posés à même le sol et quelques rares personnes qui passent sur le parking dans cette banlieue de Moscou, comme Elena, qui habite juste à côté et qui, elle, vient tous les jours.
Les premiers jours, il y avait beaucoup de monde. Aujourd'hui, il n'y a plus que les gens qui passent pour faire une course.
Les autorités ont organisé deux cérémonies sur place. L'une rapidement le surlendemain de l'attentat, l'autre 9 jours après, comme le veut la tradition orthodoxe, mais rien de solennel, pas d'hommage national. Et surtout, aucun officiel russe de premier plan ne s'est rendu sur place, à commencer par Vladimir Poutine. Impossible pour le politologue russe en exil, Dmitri Orechkine.
Poutine est le soleil. Poutine est celui qui nous protège des agressions. Il ne doit pas être filmé dans un lieu associé à des problèmes.
Les médias russes ne parlent plus de l'attentat que pour évoquer ses commanditaires désignés par le Kremlin, l'Ukraine et les Occidentaux. La télévision a monté à la va-vite une émission d'hommage où un pop orthodoxe en plateau délivrait ce message.
Nous sommes tous unis aujourd'hui et nous devons nous unir, être courageux ensemble, parce que nous sommes attachés à notre patrie. Soyons ensemble et ensemble, nous nous en sortirons, mes chers amis.
Rester unis, en clair, ne pas poser de questions sur l'attentat, ses commanditaires ou l'échec des forces de sécurité.
Pour la première fois et après 6 mois de guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, la Maison-Blanche fait un lien entre son soutien à Israël et une action immédiate en faveur des civils dans l'enclave palestinienne. Le président des États-Unis Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se sont entretenus hier par téléphone. La Maison-Blanche confirme un mécontentement croissant de la part de Washington vis-à-vis de l'État hébreu. Un peu plus de 100 jours après l'arrivée au pouvoir de Javier Milei en Argentine, 60 000 fonctionnaires ont déjà été remerciés. Le nouveau président ultralibéral avait prévenu. Il s'était fait connaître avec une vidéo brandissant une tronçonneuse. Il menaçait de supprimer les aides sociales et de mettre fin à l'État-providence. L'Argentine au cœur du grand reportage de ce soir sur France Culture, signé François-Xavier Frelan. Il a rencontré des électeurs, notamment des ruraux, comme ce paysan Ezekiel.
Bien sûr que j'ai voté Milei. Malgré Milei, ce fut un vote difficile. Je crois que l'Argentine est au bord d'une scission totale. Parce qu'ici, c'est un pays de gaspillage. L'État argentin a été abusé par tous les citoyens, par toutes les classes sociales, surtout la classe moyenne, qui en a profité d'une manière infernale, en décrochant le téléphone pour obtenir un boulot, pour un neveu, un fils. Et ça continue de fonctionner comme ça. Je pense que Milei devrait aller plus loin, mettre dehors tous les fonctionnaires et récupérer que ceux qui servent à quelque chose. Il y a 90% d'entre eux qui ne savent rien faire. Ils sont fonctionnaires parce que sinon, qu'est-ce qu'ils font? Le problème, c'est que les gens ne savent rien faire. C'est un drame, ça. Les écoles sont un drame. L'éducation nationale, c'est un drame. Apprendre à des enfants qui n'ont rien à manger à parler anglais, ça n'a pas de sens. Qu'ils apprennent d'abord à utiliser des tronçonneuses, à travailler.
Témoignage recueilli par François-Xavier Frelan, auteur du grand reportage de ce soir, Argentine, la popularité de Milei à l'épreuve du pouvoir. Rendez-vous à 17h sur France Culture. Des dizaines de milliers de livres pourraient être contaminés à l'arsenic. La découverte a été faite en Allemagne et plusieurs bibliothèques universitaires du pays seraient concernées. En cause, un pigment vert très à la mode au 19e siècle et utilisé pour la fabrication des ouvrages. Des établissements ont commencé à isoler les volumes suspects pour les examiner. Sébastien Baer s'est rendu à l'université de Bielefeld dans le nord-ouest de l'Allemagne où 60 000 livres seront bientôt en quarantaine.
Avec leur couleur vert vif, les livres potentiellement contaminés sont faciles à repérer. Dans l'une des allées de la bibliothèque, la directrice Barbara Knorn désigne un ouvrage consacré à l'histoire de l'Allemagne.
Ce livre, par exemple, a une couleur verte caractéristique. Parfois, c'est la couverture qui est verte ou alors la tranche du livre. Le danger pour la santé, c'est quand on manipule les livres, quand l'arsenic se dépose sur les mains et qu'on les porte ensuite à la bouche.
60 000 ouvrages vont devoir être testés pour évaluer la présence d'arsenic. Ce sont des livres paru au 19e siècle, à l'époque où un colorant baptisé vert de Schweinfurt était largement répandu, explique Reinhard Altenhöner de l'Association allemande des bibliothèques.
C'était un colorant merveilleusement intense et brillant. Fabriquer les livres de cette façon les rendait attrayants. On dit que Goethe aimait beaucoup ce vert. C'est l'arsenic qui donne cette couleur particulière. Et le risque, c'est que ça déclenche des malaises, des vomissements ou des diarrhées, jusqu'au cancer, même si c'est très, très important.
improbable. Les 24 000 étudiants de Bielefeld ont été alertés des risques via la messagerie interne. Mais cela n'empêche pas Paul, croisé à la sortie de la bibliothèque, d'être un peu inquiet.
Ça fait bizarre de se dire que l'arsenic est partout ici. Je viens étudier ici 5 ou 6 jours par semaine. C'est un peu effrayant d'être exposé à des substances aussi toxiques.
Les analyses vont débuter dans les prochains jours. Les ouvrages contaminés à l'arsenic seront mis à l'écart, puis numérisés pour rester accessibles aux étudiants.
Sébastien Baer. Le temps aujourd'hui en France, pluvieux ce matin dans le nord-ouest, un ciel voilé ailleurs. Les températures jusqu'à 18 degrés attendues cet après-midi à Lille comme à Paris, 22 à Belfort, Lyon et Marseille, 27 à Bordeaux, jusqu'à 28 degrés à Tarbes.